6h40, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara, bonjour à toutes et à tous.
Jacques, la négociation sur le télétravail semble mal engagée. Laurent Berger à la CFDT a menacé de ne pas signer le diagnostic paritaire lors d'une réunion qui est prévue demain entre patronat et syndicats.
Oui, et d'une manière générale, les organisations de salariés qui aimeraient aller plus loin qu'un simple état des lieux réclament l'ouverture d'une négociation débouchant sur un nouvel accord national interprofessionnel applicable à l'ensemble des entreprises. Les mouvements d'employeurs ne veulent pas à ce stade en entendre parler, résument Bertrand Bissuel et Raphaël Besse-Desmoulières dans Le Monde. C'est pourquoi, avec d'autres, le secrétaire général de la CFDT refuse de paraffer un document sans valeur juridique contraignante. « On n'a pas de temps, je cite, à perdre, à faire des figures de style », a-t-il déclaré. Si le patronat ne veut pas, ce qui est incompréhensible parce qu'il laisse un certain nombre d'entreprises dans une espèce de no man's land, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On a pu, depuis la fin du confinement, prendre la mesure des risques potentiels de ce type d'activité à distance, le télétravail, où la frontière s'efface entre le monde professionnel et la sphère personnelle, avec la relégation des collectifs de travail et la montée d'une forme de sentiment de culpabilité qui fait répondre à toute injonction à n'importe quel moment. Si cette pratique a pu rendre des services à l'économie en temps de pandémie, sa généralisation peut faire craindre une nouvelle désorganisation du travail s'ajoutant au temps partiel subi, à l'intérim, à la mobilité ou à la précarité. Le mensuel CQFD publie un dossier sur le temps de travail et rappelle que pour le mouvement ouvrier des 19e et 20e siècles, la lutte pour le temps a été la mère de toutes les batailles. Yfik Le Guen revient sur les ouvrages du sociologue allemand Hartmut Rosa, consacré à l'accélération du temps dans nos sociétés modernes, une sorte d'équivalent fonctionnel à la promesse de vie éternelle, jadis religieuse. Et il a mené l'enquête sur l'un des dirigeants de Google, Eric Schmidt, engagé comme conseiller du Congrès américain et du Pentagone dans une course vers la société connectée. Nommé à la tête d'un groupe d'experts chargé d'inventer l'avenir post-Covid de l'État de New York, il s'est fixé comme priorité la télémédecine, l'enseignement à distance et le très haut débit dans un programme dénoncé comme Screen New Deal, pacte des écrans, par Naomi Klein. Et l'on sait que les géants du numérique œuvrent en sourdine aux solutions et moyens techniques pour développer le télétravail. Un cas limite de l'accélération du temps imposé aux salariés a été révélé au procès France Télécom l'an dernier. Entre 2007 et 2010, ses dirigeants s'étaient fixés pour objectif le départ volontaire de 22 000 employés sur les 100 000 que comptait l'entreprise. C'est alors institutionnalisé un management par la terreur, selon les termes de Michel Deparis, un technicien marseillais qui s'est suicidé, l'un des 19 salariés qui en ont fait de même, 12 autres l'ayant tenté. À l'époque, Didier Lombard, le PDG, disait au cadre que les départs devaient se faire par la fenêtre ou par la porte. Or, le tribunal a jugé illégaux les moyens choisis pour atteindre l'objectif, rappelant notamment qu'il faut concilier le temps et les exigences de la transformation de l'entreprise avec le rythme de l'adaptation des agents qui assurent le succès de cette transformation. Sandra Lucbert a suivi le procès jour après jour. Elle vient de publier au Seuil une fiction réaliste et critique sous le titre « Personne ne sort les fusils » et elle évoque dans Marianne ce qui l'a frappé dans le déroulé de ce procès. Les dirigeants de France Télécom étaient estomaqués qu'on les incrimine pour des plans managériaux qu'ils estimaient réussis. Une autosatisfaction qui tranchait si radicalement avec l'indignation impuissante des parties civiles qu'elle a entrepris de faire apparaître littérairement le régime d'évidence des prévenus, leur « il fallait faire 22 000 départs parce que il fallait libérer 7 milliards de cash flow. Du coup, c'est aussi une question de langue qui lui apparaît décisive. La langue que Gramsci appelait la langue hégémonique et qui s'impose au point de rendre invisibles les mécanismes sociaux qui nous constituent. Ainsi, le mot « agilité » a été mis dans nos bouches. Il dit la liquéfaction de la force de travail opérée par Uber, qui parle de « workflow », flux de travail. Or, dénonce-t-elle dans les Inrecuptibles, cette novlangue néolibérale est tellement prégnante qu'au procès, le tribunal parle la langue qu'il accuse. Il ne remet pas en cause la nécessité de ces licenciements, juste le fait que c'était une réduction des effectifs à marche forcée et que le volontariat des départs n'était qu'un simple simple affichage. C'est pourquoi, selon Sandra Lucbert, le procès France Télécom n'a pas eu lieu.